Washington.
Il est 12h à Washington D.C., 18h en temps universel. Vous écoutez VOA Afrique, Rosine Munezero à la présentation de son nouveau bulletin d'information. En Guinée, le chef de la junte au pouvoir depuis un mois, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment aujourd'hui vendredi comme président. Le colonel Doumbouya a répété que son pays, important producteur de minerais, honorerait tous ses engagements internationaux. Il a également affirmé son engagement à ce que ni lui ni aucun membre de la junte ne se présentera à de futures élections que les militaires ont promis d'organiser à l'issue d'une période de transition. Il n'a rien dit lors de sa prestation de serment sur la durée de cette transition. Au Tchad, le président du comité chargé de discuter avec les groupes armés a ouvert vendredi les travaux de sa commission à N'Djamena, déclarant que le temps du dialogue est arrivé. Je me permets de dire humblement et sincèrement à nos frères politico-militaires que le temps du dialogue est arrivé, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse Gukuni Wedeye, chargé de préparer la participation des groupes rebelles au dialogue national inclusif qui doit conduire à des élections présidentielles et législatives. Le comité, composé de 28 membres, dont plusieurs proches du nouveau chef de l'État, le général Mahamat Déby, et des généraux influents de l'armée tchadienne, doit rendre son rapport le 30 novembre. Au Kenya, au moins 2,4 millions de personnes risquent de se retrouver en situation d'insécurité alimentaire sévère d'ici novembre en raison de la sécheresse qui sévit dans le nord et l'est du pays, a estimé vendredi l'OPAM. Le président Uhuru Kenyatta a déclaré le 8 septembre l'état de catastrophe naturelle en raison de cette sécheresse qui d'ores et déjà a plongé au moins 2,1 millions de personnes dans la faim, selon l'Autorité nationale de la gestion de la sécheresse. L'ONU estime à 139 millions de dollars les besoins de financement immédiats. Au Congo, le général Jean-Marie Michel Mokoko, 74 ans, ancien candidat à la présidentielle de 2016, condamné pour atteinte à la sécurité de l'État, a été remis vendredi en prison alors qu'il était soigné depuis un an à l'hôpital, a indiqué son avocat en protestant contre cette mesure. Tombé malade, cet ancien chef d'État-major a été évacué en Turquie où il a reçu des soins entre juillet et août 2020. Depuis son retour, l'officier était resté interné à l'hôpital militaire. Les autorités gouvernementales et pénitentiaires ne se sont pas encore exprimées sur les raisons de cette réintégration.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Tunisie, les autorités ont renforcé vendredi le dispositif sécuritaire autour du Parlement à Tunis, en place depuis le coup de force du président en juillet, face à une tentative de députés d'y accéder pour reprendre les activités suspendues de la Chambre. Plus de 80 députés, principalement du parti d'inspiration islamiste Ennahda, avaient appelé les autres élus à se rassembler devant le Parlement et à exiger la reprise de leurs travaux. Un seul député s'est présenté devant le Parlement dans le quartier du Bardo, selon des journalistes de l'AFP sur place. Dimanche, des manifestations rivales sont prévues à Tunis, l'une en soutien au président Kais Saied et la deuxième contre son coup de force devant le Parlement au Bardo. Le Malawi a déployé vendredi des soldats armés pour escorter les livraisons de carburant alors qu'une grève de transporteurs crée des pénuries dans les stations essence du pays, notamment dans la capitale Lilongwe, quasiment à sec. Le porte-parole du gouvernement Gospel Kazako a déclaré que ces routiers veulent de meilleurs salaires et une réduction des frais de passeport et des tests Covid nécessaires pour traverser la frontière. Le gouvernement a récemment augmenté le salaire minimum des routiers à 140 000 kwacha, soit 148 euros par mois, mais les chauffeurs affirment que les entreprises n'ont pas encore répercuté cette décision sur leur salaire. L'île Maurice a rouvert complètement vendredi ses frontières aux voyageurs internationaux, espérant relancer son secteur vital du tourisme, durement touché par des mois d'isolement en raison de la pandémie de Covid-19. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Rosine Munezero était à la présentation. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. A tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
La Minute Éco avec John Linden pour VOA Afrique. La Côte d'Ivoire envisage d'atteindre une croissance économique moyenne de 7,65% au cours de la période 2021-2025. Selon un communiqué des autorités ivoiriennes relayé par l'agence Ecofin, la réalisation de cet objectif en hausse par rapport aux 5,9% sur la période 2016-2020 s'inscrira dans le cadre du nouveau plan de développement élaboré pour la même période et en cours d'adoption. Dans le cadre de ce plan, la Côte d'Ivoire entend faire passer ses investissements à 27,1% du PIB en 2025. Le Togo a enregistré 19 milliards de francs CFA de recettes touristiques en 2020 contre 53 milliards de francs CFA en 2019, soit une baisse de 64%. Ces données, rapportées par Financial Afrique, ont été communiquées hier dimanche par le ministre de tutelle à l'occasion de la 42e édition de la Journée mondiale du tourisme. Selon le ministre, les arrivées de touristes sont estimées à plus de 481 000 en 2020 contre un peu plus de 946 000 en 2019, soit une baisse de moitié. Le Royaume-Uni fait face à des pénuries d'essence et selon la presse locale, le gouvernement envisage de faire appel à l'armée pour livrer du carburant.
24 heures sur 24, VOA Afrique.
Avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.
Baby, hop in my Maserati.